6, versets 1 à 2 et le verset 10. Alors, ça ne sera pas une prédication qui va au fil du texte, mais plutôt une prédication thématique. Voilà, nous allons quand même lire ce passage qui va nous faire rentrer dans cette thématique. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois tenté aussi. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et le verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Et comme c'est court, je vais le lire deux fois. « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois tenté aussi. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, comment réagissons-nous face aux péchés des autres ? Et surtout, comment réagissons-nous quand ce péché nous concerne? Je ne peux pas parler pour vous, mais personnellement, je trouve cela pas toujours facile de reprendre une personne avec douceur, surtout quand je suis concerné par le péché de l'autre. Parce que c'est vrai que si je ne suis pas concerné, ça peut être plus facile. Mais quand le péché me concerne, c'est quelquefois difficile de le reprendre avec douceur. Alors, je peux vous citer des exemples que j'ai déjà entendus, malheureusement. Imaginez que votre conjoint ou votre conjointe vous trompe. Comment réagissez-vous? Comment réagissez-vous si vous vous rendez compte qu'un frère en Christ fait de la calomnie sur vous depuis plusieurs années? Est-ce qu'on aura cette douceur pour aller vers lui et lui dire? Personnellement, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de douceur dans un premier temps. Et alors, j'ai repensé à ces personnes qui m'ont parlé de la foi, où ils ont découvert, parce que malheureusement ça arrive fréquemment, qu'un chrétien faisait de la calomnie sur eux, et il me semble que dans un premier temps, leurs sentiments étaient animés par le jugement, la trahison et la rancœur. Alors je ne dis pas qu'à chaque fois c'est le cas, merci Seigneur, quelquefois c'est pas le cas, et il y a tout de suite l'amour, mais bon, pour que je puisse avoir quelque chose à prêcher, j'ai quand même pris le cas extrême. Et on va essayer de reprendre ces trois choses, le jugement, la trahison et la rancœur, et voir dans la Bible comment nous débarrasser de cela, pour pouvoir vraiment avoir un esprit de douceur envers nos frères en Christ qui pêchent. Commençons par l'esprit de jugement. Pour moi, l'esprit de jugement est le fruit de notre orgueil. Tout homme a un penchant naturel orgueilleux. Et bien sûr, quand je dis cela, je pense à Adam et Ève. Là, on est au début, tout au début de l'humanité. Et déjà, l'orgueil est présent quand Adam refuse d'écouter Dieu et prend du fruit interdit. Il ne va pas s'arrêter là, après il va juger sa compagne en disant « c'est pas moi, c'est elle ». Dès le début, finalement, tout cela est présent. En jugeant les autres, nous nous plaçons au-dessus d'eux, et ainsi notre orgueil est nourri, et notre ego se sent bien. Oui, quand nous jugeons les autres, ça peut avoir une sensation de bien-être. Mais malheureusement, plus cet ego est nourri, plus nous nous éloignons de nos frères en Christ. La parole de Dieu nous dit en Jacques, chapitre 4, verset 12, « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?» Et notre texte nous dit « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté aussi. » Dire de la calomnie sur un frère en Christ est une chose que je ne souhaite à personne, Mais malheureusement, plus les années passent, plus je me rends compte que cela est plus accessible qu'on ne le croit. Et qu'est-ce qu'on met aussi derrière ce terme calomnie ? Moi, je pense que du moment qu'on dit du mal de quelqu'un à un autre, on commence la calomnie. Même si c'est des petites choses, mais après, bon, ben, ça s'accumule, et c'est là où c'est pas bon. Alors, quand je parle avec quelqu'un, veillons à toujours dire du positif de l'autre. Je sais, c'est pas facile. En plus, on est français, alors on aime bien la critique constructive, comme on l'appelle, mais elle n'est pas utile, je pense. Prenons vraiment l'habitude de toujours dire du bien sur nos frères et sœurs en Christ. J'ai entendu des témoignages poignants de personnes qui, suite à un enchaînement de situations, se sont retrouvées à faire des choses ou à dire des paroles qu'ils regrettaient par la suite. J'ai même une fois entendu l'histoire d'un couple chrétien où la femme, suite à plusieurs événements qui se sont enchaînés, a finalement trompé son mari et bien sûr elle n'était pas du tout heureuse de l'avoir fait. Les enchaînements se sont enchaînés et voilà. Et si on se laisse savoir, c'est pas bon. Et le problème avec le jugement, c'est qu'il détruit plus qu'il ne construit. Quand on se sent jugé, on a du mal à aller vers l'autre. Comment puis-je dire à l'autre, j'ai tel et tel souci, si je sais qu'il va me juger ? Pour revenir à notre exemple de la calomnie, si je ne peux pas dire à l'autre mon ressenti face à quelque chose qui m'a fait de peur qu'il me rejuge en retour, puis il y a cette phrase qui revient souvent chez les chrétiens, regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans le mien. Alors, du coup, c'est vrai que face à de telles argumentations, eh ben, on n'arrive plus à dire nos ressentis. Et alors si je ne le dis pas à la personne concernée et que je le garde pour moi-même, alors au début ça va, puis plus le temps passe, plus ça bouillonne, on a envie d'en parler, ne pouvons pas en parler à la personne considérée, ça arrive qu'on en parle à une autre personne. Et puis quelquefois la calomnie commence tout simplement comme ça. Parce que je n'ai pas pu dire ce que je devais dire à la personne considérée de peur qu'elle le prenne mal. Et les choses s'enchaînent. Alors je ne dis pas que c'est à chaque fois le cas. On est tous différents. Il y a des gens, merci Seigneur, qui arrivent à tout garder sur eux, à ne jamais en parler. Mais il y en a qui ont besoin de faire ressortir leurs pensées. Et cela est vrai aussi pour les autres péchés. Si je ne peux pas en parler aux autres de peur d'être jugé, je vais me retrouver seul avec mes tentations. Et ce n'est pas bon d'être seul avec ses tentations. Si nous n'arrivons pas à nous débarrasser de notre esprit de jugement, il nous sera difficile d'exhorter les autres. A l'inverse, si nous arrivons à chasser cet esprit de jugement, les gens se confieront plus facilement à nous et il nous sera plus facile de les encourager et de les exhorter. Cela me fait penser vraiment à Jésus et à la femme adultère. C'est surprenant. Jésus ne la condamne pas. Il lui dit « Va et ne pêche plus ». Il l'exhorte. Il l'exhorte à ne plus recommencer. Et sans cet esprit de jugement et de condamnation, elle pouvait être libre de revenir à Jésus pour que Jésus l'encourage et l'aide. Et rappelons-le, la tentation, les mauvaises pensées ne sont pas péchés. C'est que quand on le commet qu'il devient péché. Donc parler de nos tentations, ce n'est pas mal en soi. Bien sûr, n'étalons pas ça sur la place publique, Après, ça devient malsain, mais juste à des frères proches en la foi, parlez. Et ça permet d'évacuer, ça permettra de prier pour vous et de vous aider à ne pas le reconnaître. Passons maintenant au sentiment de trahison. Quelquefois, pas toujours heureusement, nous mettons nos proches sur un piédestal et nous les surévaluons. Nous pensons que l'autre est une personne qui pêche moins que moi, moins que les autres. Alors, souvent, quand j'écoute certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils considèrent les pasteurs comme des hommes et des femmes plus saints que les autres, comme supérieurs aux autres. Et je vous rassure ou je ne vous rassure pas, mais ce n'est pas le cas. Les pasteurs sont des êtres humains comme les autres. Souvent aussi, on regarde avec beaucoup d'admiration celui qui nous a conduits à Jésus-Christ. Il nous a conduits à Jésus, lui, il est saint. Lui a vraiment une vie de sainteté, il ne pêche pas. Et involontairement, nous arrive de classer les gens par ordre de sainteté. Or, la Bible nous dit, en Romains 3, versets 23-24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas classer les gens par ordre de sainteté. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Nous sommes tous pécheurs, tous au même pied d'égalité. Par contre, il existe, et j'en rencontre, des personnes qui arrivent à mieux cacher leurs péchés et avoir une super façade, et on a l'impression qu'ils ne pêchent jamais. Quoi. Alors bien sûr, je ne vous exhorte pas, et ne le faites pas, ne balancez pas sur la place publique tous vos péchés. Voilà, ça c'est pas bon non plus. Mais par une attitude raisonnable, montrons que nous sommes comme tous les autres. Et ça aidera aussi les gens à se confier. Créons un climat de confiance entre nous qui favorise le dialogue et l'encouragement. Alors, j'ai vraiment à cœur l'encouragement. Quand je suis venu ici à Thiers, j'ai compris vraiment ce que c'était que le ministère d'encouragement. Quand je vois c'est cette église qui s'encourage mutuellement. Et je vous encourage à continuer à vous encourager. J'ai appris que la critique détruit, mais l'encouragement construit et change les gens. Et j'en ai bénéficié grâce à vous. Et si nous favorisons le dialogue et l'encouragement, nous pourrons porter les fardeaux des uns et des autres, comme nous le dit le verset 2 de notre texte. Portez les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Le gros problème de placer les autres sur un piédestal, c'est qu'un jour ou l'autre, on sera déçu. C'est une certitude. Car ils ont exactement la même nature pécheresse que nous. Et quelquefois, c'est dangereux parce que on met même l'autre personne en difficulté en pensant qu'elle est plus sainte. Parce que du coup, j'avais ce témoignage d'un pasteur alsacien qui fermait ses volets quand il regardait la télé. Parce qu'il disait, mais les paroissiens, ils pensent que je regarde jamais la télé parce que je suis toujours en train d'étudier la Bible. Et finalement, il rentrait dans ce jeu-là et ça va pas l'aider. Et ça aidera personne. Personne est plus saint que les autres. Si nous sommes conscients de notre état de faiblesse et de celui de nos proches, nous serons plus vigilants à les aider et il sera plus facile de se confier à nous. Si nous arrivons à gagner la confiance de nos proches, ils pourront peut-être se confier avec plus de facilité. Je dis peut-être parce que ce n'est pas une obligation. Personne n'est obligé de se confier à tous. Et ainsi, nous pourrons prendre conscience qu'ils sont des êtres pécheurs comme nous, et le jour où ils pécheront, nous serons moins déçus d'eux, et ce sentiment de trahison sera peut-être moins présent. Que l'on soit bien d'accord, je ne dis pas cela pour justifier le péché, mais pour que nous puissions aider le pécheur. Le péché est accessible à tous. Et si je le dis, ce n'est pas pour que nous péchions tous, non, loin de là, cette idée, mais pour que nous soyons vigilants les uns envers les autres. Maintenant, j'aimerais passer au dernier thème, c'est la rancœur. Souvent, quand j'écoute des personnes en conflit, j'ai cette impression, peut-être c'est qu'une impression et je l'espère, qu'ils tiennent l'autre pour responsable de leur douleur. « Je souffre parce que tu m'as fait ceci ou cela. » Tu es à l'origine de ma souffrance. Mais d'où vient la douleur? D'où vient la souffrance? La Bible nous dit qu'au commencement, tout était bon. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Et finalement, c'est la désobéissance qui a amené la douleur dans le monde. L'origine de la douleur, c'est le péché. Et nul homme ne peut éradiquer le péché. Et du coup, je dirais que nous sommes tous, oui tous, des victimes du péché. Quand je pêche, j'ouvre une porte à la douleur, et cette douleur, nous devons être conscients qu'elle atteint bien sûr la personne blessée, mais aussi, quelquefois, la personne qui a commis le péché. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive souvent, quand je pêche, je souffre. Quand j'ai dit une mauvaise... ça m'arrive, hein, des fois je dis une parole un peu dure envers quelqu'un, je vois qu'elle a tristé, je souffre. Je ne me réjouis pas d'avoir fait du mal à quelqu'un. Quand j'ai puni injustement ma fille, je souffre, parce que je ne suis pas content de l'avoir fait. Il nous est agréable de tenir pour responsable l'autre de nos douleurs, mais en réalité, je ne pense pas qu'il est le vrai responsable. Mais alors, qui est le responsable? Alors certains me disent le diable. Le diable est le responsable. Alors faisons attention parce que c'est trop facile de tout rejeter sur le diable et d'en faire notre bouc émissaire. C'est tellement simple. Hop, c'est tout la faute du diable. Juste pour rappel, le diable n'est pas Dieu, mais il est une créature de Dieu. Du coup, le diable ne peut pas être partout à la fois. Le diable n'a pas les attributs de Dieu. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. C'est une créature de Dieu, le diable. Mais alors, qui est le responsable? Qui est le responsable de la douleur, de ces douleurs que j'ai quand on me fait du mal? D'où viennent ces douleurs? Il me semble que le vrai responsable de ces douleurs, c'est notre vieille nature ou notre chair. Voici ce que dit l'apôtre Paul lui-même en Romains chapitre 7, versets 14 à 20. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ben alors, certains me diront, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile de ne pas tenir l'autre pour responsable de ce qu'il a fait. Non, il est coupable. C'est trop facile de penser que c'est sa chair qui commet la douleur. Certains me disent, mais en disant cela, tu vas encourager les chrétiens à pécher. Tu vas les encourager. Ils ne sont pas responsables des douleurs. Arrêtons, arrêtons. Je pense que c'est complètement faux. Aucun chrétien n'aime pécher. Et je vous lis en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Un chrétien né de nouveau, j'en suis convaincu, ne peut pas prendre plaisir à pécher. C'est une fake news, je crois qu'on dit comme ça aujourd'hui, de croire qu'un chrétien peut pécher et prendre du plaisir. Un chrétien né de nouveau n'a plus envie de pécher, il a envie de plaire à Dieu. Malheureusement, il m'arrive encore, et je pense aussi à vous, de pécher. Et à chaque fois que cela nous arrive, eh bien, en tout cas, je parle pour moi, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas heureux de faire des choses qui déplaisent au Seigneur. Un chrétien né de nouveau n'aime pas le péché, et quand il pêche, il éprouve de la douleur, car il n'aime pas attrister le Seigneur. Soyons convaincus de cela, et ça nous aidera aussi à redresser avec beaucoup de douceur ceux qui pêchent. Mais en fait, le vrai problème des personnes qui ne veulent pas pardonner, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris que la source de leur douleur, ce ne sont pas les autres, mais les péchés. Et que ce péché leur est aussi accessible. Pour moi, l'erreur la plus répandue, c'est de se croire hors d'atteinte de certains péchés. Alors je vais prendre un exemple, je vais juste vous mettre une image. Ceci est la dernière image que j'ai reçue de mon papa. Dans le dernier email qu'il m'a envoyé, voici ce qu'il m'a envoyé. Cette image est une image de Egora, site d'information médicale et professionnelle. Egora s'adresse aux médecins, étudiants de faculté de médecine et professionnels de santé, infirmiers, kinés, dentistes, etc., etc. Sur cette image, on voit une personne qui dit « Je ne veux pas me faire vacciner, pas confiance. » Et au-dessus, c'est marqué « Grippe, 10 000 morts par an en France. » Et à côté, une personne crie « Oh mon Dieu, on va tous mourir, c'est la fin du monde !» Et au-dessus, il y a marqué « Coronavirus, 0 mort en France. » Cette image était là pour finalement nier la dangerosité du coronavirus. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mois après, mon papa est décédé du Covid-19 et la France a connu la première vague de la Covid-19. Il est difficile de se défendre correctement si on n'est pas conscient du réel danger. Et vous voyez, j'espère, le rapprochement avec le péché. Si je me dis « Ah, le péché, ça ne me concerne pas. Dire de la calomnie, ça ne me concerne pas, je suis hors d'atteinte. Tromper mon épouse ou mon épouse, je suis hors d'atteinte, parce que moi, je suis mieux et plus spirituel que les autres. » Eh bien, c'est se mettre nous-mêmes en danger. J'en connais des gens, hein. Ils me disent « Ah, moi, je ne tromperai jamais ma femme. Eh bien, je vais aller dîner en tête à tête avec une collègue, etc., etc. » Nous sommes tous des êtres pécheurs, nous sommes tous des êtres humains. Nier notre propre nature, c'est nous mettre en danger. Et ce n'est pas un mal que de se dire « je suis humain et je peux, si je ne fais pas attention, dire de la calomnie ». C'est vraiment des cas extrêmes, mais alors soyons conscients de notre état. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous, nous dit 1 Jean au chapitre 1, verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous pensons que le péché ne nous concerne pas, il nous détruira. Un jour ou l'autre, il nous détruira. Déjà, il commence déjà à nous détruire par l'orgueil. Parce que si je pense que je ne vais pas pécher, ben je suis désolé, c'est quand même un péché d'orgueil. Parce que je me crois supérieur aux autres, je me crois meilleur que les autres. Il est vraiment important d'être conscient que le péché existe et que nous sommes tous concernés et nous devons prendre soin des uns et des autres. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ne regardons pas le pécheur comme responsable des douleurs du monde, mais regardons-nous comme victimes du péché, car nous sommes tous pécheurs. Que l'on soit bien d'accord, et je le redis, je ne dis pas cela pour encourager les gens à pécher, pour dire « c'est pas grave le péché ». Loin de là, cette idée. Le péché, c'est grave. Mais nous sommes pécheurs. Et d'ailleurs, si le péché n'était pas grave, pourquoi le Christ serait-il mort sur cette croix? Pourquoi Jésus viendrait-il le 24 descendre sur cette terre si c'est pas grave? C'est bien parce que c'est grave qu'il s'est lui-même déplacé sur notre terre pour nous côtoyer, nous accorder ce grand cadeau de Noël. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort pour chacun d'entre nous, car nous avons tous besoin de sa rédemption. si nous voulons redresser nos frères et sœurs avec douceur, nous devons demander à Dieu de l'humilité pour que nous puissions être conscients que nous ne sommes ni mieux, ni moins bien. Parce qu'il y a l'erreur de se croire mieux que les autres, puis il y a l'erreur de se croire moins bien que les autres. Voilà, les deux ne sont pas bons. Je suis ni mieux, ni moins bien que les autres. Et puis finalement, j'aurais pu peut-être être à la place de mon frère qui a péché. Redressons-nous avec un esprit de douceur, comme si c'était nous-mêmes qui en avions besoin. La Bible nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Nous avons tous péché. Et on aimerait tous que l'on soit relevé avec douceur. Je me souviens dans une église, une personne, c'était un conseiller, il a péché, il a volé dans la quête. On s'en est aperçu. Et alors là, j'ai été vraiment étonné. Tout le conseil l'a redressé avec amour et douceur. Ils n'ont pas dit « tu n'es plus chrétien ». Bon, ils ont demandé quand même de ne plus prendre la scène. Quoi. Ils ont discuté avec lui. Il dit « est-ce que tu es d'accord de ne plus prendre la scène pendant un certain temps ?» Il a dit « ok ». Et après, il a dit « bon, écoute, maintenant, on va faire en sorte de ne plus te mettre en porte-à-faux. Tu ne t'occuperas plus de l'offrande. Comme ça, tu ne seras plus en porte-à-faux. » Ils l'ont redressé avec beaucoup d'amour. La personne est restée dans le temple et elle a progressé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de soucis. Pourtant, c'était grave. Mais avec beaucoup de douceur, ils l'ont redressé et le témoignage est encore plus grand. Je terminerai par ces trois proverbes. Le proverbe au chapitre 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la querelle. Et on a vu ces exemples dans le monde. Hein. Après la Première Guerre mondiale, on a été vraiment très dur avec les Allemands. Et cette dureté, quelquefois, entraîne la représaille. Par contre, une réponse douce, ça calme, ça aide, ça construit. En Proverbe 15, verset 18, « Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Et enfin, Proverbe chapitre 10, verset 12, « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Aimons-nous les uns les autres. » Et si quelqu'un vient à pécher, redressons-le avec plein d'amour. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est bientôt Noël. Et bientôt, on va se rappeler ta venue sur cette terre. Et tu es venu pour chacun d'entre nous. Parce que sans toi, point de salut. Seigneur, je ne suis ni mieux, ni moins bien que les autres, et j'ai besoin de toi. Transmets-nous ton amour, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un a péché, et notamment péché contre nous, que nous puissions, avec vraiment un esprit de douceur, lui parler et pardonner. Gloire à toi, Seigneur. Amen.